historiquement vôtre.
Le récit.
On parle, Mathieu, du premier tueur en série arrêté par la police française. Surnommé le Barbe Bleue de Seine-et-Oise, le Sire de Gambet, il s'agit de Henri Désiré Landru, accusé dès 1919 du meurtre de 11 personnes. L'horrible affaire Landru a inspiré de nombreux auteurs, dont Claude Chabrol, qui en a fait un film en 1963. La même année, Charles Trenet écrit une chanson sur le célèbre tueur en série.
Landru, 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 vilain barbu, tu fais peur aux enfants.
Et oui, il faisait peur aux enfants, mais pas seulement. Revenons à l'année 1919. Une perquisition a lieu dans une villa de la petite commune de Gambet. Les policiers découvrent avec effroi, dans la cuisinière, des vêtements féminins brûlés et surtout des os calcinés et des fragments de dents. Les voisins avaient bien remarqué qu'une fumée noire et nauséabonde s'échappait régulièrement de la cheminée, même en été. Ils ne se sont pas inquiétés outre mesure. Bah, ils auraient dû pourtant. Le 12 avril 1919, le locataire de la maison est arrêté. Il s'agit de Landru. Il est accusé du meurtre de 11 personnes, dont 10 femmes. Mais malgré des éléments accablants, Henri Désiré Landru n'avouera rien pendant ses nombreux interrogatoires. Je vous propose aujourd'hui de revenir sur une affaire qui continue de faire frissonner 100 ans après les faits. Tout commence dans les années 1900. Henri Désiré Landru, qui est marié et père de 4 enfants, entame une carrière de petit escroc. Avant cela, il a été comptable, entrepreneur de travaux, plombier, manufacturier et a exercé encore bien d'autres métiers qui n'ont pas permis de gagner convenablement sa vie. Âgé d'un peu plus de 30 ans, il monte sa première arnaque. Prétendant fonder une fabrique de vélos à moteur, il appâte des investisseurs puis disparaît avec leur capital financier. Il achète aussi un garage sous une fausse identité et le revend, sans l'avoir payé à l'ancien propriétaire. Pour ses délits, il fait plusieurs années de prison. En 1906, les médecins de la maison d'arrêt diagnostiquent un état mental maladif. Les médecins ne parlent pas de folie, pourtant on n'en est pas loin, car Landru s'apprête à commettre l'irréparable. Misant sur son physique d'homme bien sous tout rapport, avec sa belle barbe noire et un chapeau melon, Landru élabore une stratégie pour attirer les femmes et les dépouiller. Le prédateur passe des petites annonces matrimoniales dans lesquelles il se fait passer pour un veuf au revenu confortable. Voici l'une de ces annonces. « Monsieur sérieux sans famille, ayant petit capital, désire épouser veuve ou femme incomprise. »
Mais c'est vrai, il n'a pas des enfants, Landru ?
Si.
Et les amis où ?
Dans une petite annonce, vous n'êtes pas obligé de tout dire. Quand vous draguez sur Tinder, vous racontez pas tout. Quand une femme lui répond, Landru la séduit, lui promet le mariage et en profite pour obtenir une procuration sur son compte en banque.
Ah bah tiens.
Elles sont folles. Une fois sa proche bien ferrée,
c'est un peu gros, hein.
Landru l'invite dans une maison louée en banlieue parisienne, d'abord à Vernouillet, puis à Gambet, dans les Yvelines. Là, il la tue. Difficile de savoir précisément comment, vu que les corps ne seront jamais retrouvés. Landru les découpe à la scie et les fait brûler dans la cuisinière. Le mobile de Landru est facile à comprendre. Il veut de l'argent. Et il lui en faut toujours plus. En seulement 4 ans, de février 1915 à janvier 1918, il assassine 11 personnes. Les premiers à y passer sont Jeanne Cruchet, une veuve de 39 ans, et son fils André, 17 ans. Ces victimes sont souvent des femmes seules, veuves, vieilles filles ou divorcées. Mais la disparition de 2 d'entre elles, Célestine Buisson et Anne Collomb, suscite l'inquiétude de leur famille qui envoie une lettre au maire de Gambet. Le maire est intrigué par ces courriers racontant une histoire similaire. Fiancées à un monsieur Frémet, les deux veuves l'ont, à un an d'intervalle, accompagné pour un séjour à Gambet. Mais aucune d'entre elles n'en est revenue. La police parvient rapidement à identifier la maison isolée que Landru utilise pour commettre ses crimes. Landru est arrêté et une enquête est ouverte pour essayer de prouver sa culpabilité. Elle dure plus de 2 ans car les autorités ont du mal à réunir des preuves solides. Non seulement les corps ont disparu, je vous rappelle que Landru les a brûlés, mais le tueur a aussi commis ses forfaits en empruntant différentes identités. Jusqu'au jour où la police tombe sur un petit carnet très, mais alors très compromettant.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Tremblay, notre spécial serial killer continue. Vous nous parlez cet après-midi, Stéphane, de Landru, le premier tueur en série français qui aurait notamment tué 10 femmes. Il les a probablement dépecées et brûlées dans une cuisinière.
Oui Mathieu, et cette petite spécificité a son importance parce que Landru note beaucoup de choses dans un petit carnet.
Erreur.
Oui, la police y découvre bientôt le nom de toutes les femmes qu'il a rencontrées. Soit 283 femmes en 5 ans. Il note aussi ses frais. La police constate que lorsqu'il emmenait ses fiancées à Gambet, Landru achetait un billet aller-retour pour lui, mais un aller simple pour les jeunes femmes.
Forcément, pas besoin du billet retour si elle terminait dans la cheminée.
Le 7 novembre 1921 à Versailles, le procès débute et le procureur général a beau cuisiner Landru, c'est une façon de parler.
Belle formulation.
Le suspect continue de nier. Oui, il a séduit des femmes. Oui, il les a escroquées. Mais il ne les a jamais tuées. Le doute plane. Pendant sa plaidoirie, l'avocat de Landru, maître Moreau Diaferi, prétend que les victimes ont été retrouvées. Elles vont maintenant faire leur apparition, s'écrie-t-il. L'assistance, effarée, se tourne comme un seul homme et regarde en direction des portes du tribunal. C'est la preuve. « Que nul n'est certain de la culpabilité de mon client », triomphe l'avocat.
C'était malin.
Landru seul n'a pas regardé. Le juge s'en aperçoit et fait remarquer. « Toutes les têtes se sont tournées, maître, sauf celle de votre client. » Cette scène a bien eu lieu, mais le dialogue, lui, n'est qu'une illustration de ce qui se serait passé dans les lieux. Henri-Désiré Landru est reconnu coupable et condamné à mort. Il est guillotiné le 25 février 1922 à la prison Saint-Pierre de Versailles à 6h05 du matin. Au pied de l'échafaud, à son avocat qui lui demande si finalement il a bien commis ses crimes, Landru répond simplement « Cela, maître, c'est mon petit bagage ».